Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un podcast Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek. Parfois, à force de dire, de répéter, de faire entendre les cris d'alerte réguliers de celles et ceux qui, notamment dans la fonction publique, souffrent de voir leur boulot se dégrader chaque jour, à force donc de relayer ce désespoir grandissant, on peut avoir l'impression que tout ça ne sert à rien, qu'un mouvement, qu'une protestation chasse l'autre sans influer finalement sur le cours des choses. C'est souvent à ce moment-là qu'on se rappelle que ces combats, ils portent en eux un tel dévouement à l'idée de ce qu'est censé être le service public qu'à force de défaites, ils coûtent des vies. Il y a un an tout pile, le 21 septembre 2019, c'est dans le monde de l'éducation que la mort a frappé. À Pantin, en Seine-Saint-Denis, près de Paris, dans l'école Méhul, le corps de la directrice Christine Renon est retrouvé. Elle a choisi de mettre fin à ses jours, là où elle a passé l'essentiel de sa vie professionnelle, et de signer son acte, d'en détailler les raisons au travers d'une lettre rendue publique dans la foulée selon son souhait. Un an plus tard, que reste-t-il de la mémoire de ce geste qui avait choqué l'opinion? Que reste-t-il de Christine Renon, cette directrice épuisée? De quelle façon son souvenir peut aider le monde enseignant à faire entendre ses luttes et son besoin de reconnaissance alors que vient tout juste de débuter une année scolaire encore plus compliquée que d'habitude? Ce sont quelques-unes des nombreuses questions qu'explore la série en quatre volets que nous vous proposons de découvrir toute cette semaine. Elle est signée Rosane Le Saint et Geoffrey Puitch et le premier épisode arrive tout de suite. Bienvenue dans Programme B.
Une directrice d'une école maternelle à Pantin, en Seine-Saint-Denis, a été retrouvée morte ce matin dans l'enceinte de l'établissement.
Elle s'appelait Christine Renon, elle avait 58 ans.
La ville de Pantin, en Seine-Saint-Denis, sous le choc, une semaine après le suicide d'une directrice d'école maternelle.
Suicide qui secoue le monde enseignant.
Dans sa lettre, Christine Renon raconte la lourdeur du quotidien, l'absence de soutien hiérarchique, les réformes qui s'enchaînent.
Elle s'appelait Christine Renon, une directrice d'école de Pantin, en Seine-Saint-Denis.
Monsieur l'inspecteur, mesdames et messieurs les directeurs, aujourd'hui, samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée après seulement 3 semaines de rentrée. Les soucis depuis bien avant la rentrée se sont accumulés. C'est le sort de tous les directeurs, malheureusement.
Pendant 10 ans, j'ai enquêté sur ceux qui perdent la vie à la gagner. Je suis journaliste et ma spécialité, c'est la santé. Mes premiers articles, c'était même sur la santé au travail. C'est comme ça que je suis devenue un peu experte en burn-out. Alors forcément, le suicide de cette directrice d'école de Pantin m'a marquée. Mais un an après, j'avoue, comme beaucoup, j'avais oublié son nom, Christine Renon. Mais pas son acte, ni sa lettre. Une lettre de 3 pages que cette directrice de l'école maternelle Méhul à Pantin, en Seine-Saint-Denis, a écrite avant de se suicider, le 21 septembre 2019. Je me suis dit que si même moi, j'avais oublié son nom, il y avait quand même de fortes chances pour que son histoire, qui est pourtant symbole du mal-être enseignant, soit aussi tombée aux oubliettes. Alors on a voulu raconter qui elle était, ce qui est devenu le métier de professeur des écoles, et comment son travail, qui la passionnait, a fini par la pousser à se donner la mort. Je me suis d'abord demandé pourquoi, alors qu'elle se sentait épouvantablement fatiguée, comme elle l'écrit, elle a pris la peine de rédiger cette longue lettre. En fait, l'intention de Christine Renon, c'était d'expliquer son geste. Qu'on sache ce qui l'a poussé à bout. Alors on a choisi de respecter sa volonté en parlant d'abord de son courrier.
Christine, elle devait le savoir, puisqu'elle a envoyé 30 de courriers.
Dominique Renon, son frère.
Donc elle savait forcément comment les choses allaient se gérer. Puis elle demande aussi à l'éducation nationale de ne pas salir son nom. Ça nous a pas mal marqué. Donc je pense qu'elle a pris à témoin beaucoup de personnes. Bon, c'est un geste très violent, mais c'est un geste militant.
Violent, parce que Christine Renon s'est jetée dans le hall de l'école maternelle. Mais elle avait tout prévu. Elle avait laissé un mot à la gardienne pour la prévenir de ne pas entrer et d'appeler les pompiers.
Son geste était très calculé. Bien sûr qu'elle a voulu épargner la gardienne. Elle était assez proche, hein, en plus. Ouais, tout était calculé, quoi. C'est ce qui rend d'ailleurs le geste encore plus tragique. Parce qu'elle a eu la force de faire tout ça. Comment a-t-elle fait ? Enfin, voilà. Bon. Ça, on ne le saura jamais.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle ait pris la peine de tout faire pour que la personne qui allait ouvrir la porte ne trouve pas son cadavre.
Marie Peset, responsable du réseau de consultation Souffrance au travail.
Ces gens-là sont tout à fait bouleversants parce que jusqu'au bout, ils font preuve d'humanité en face d'une administration qui n'aura qu'un souci, se dédouaner de sa responsabilité. Et donc là, je voudrais en profiter pour rappeler que dans le droit privé comme dans le droit public, depuis 2002, l'employeur privé ou public a ce qu'on appelle une obligation de sécurité. Il est responsable de la santé physique et mentale de ses salariés. Et donc, à l'hôpital, dans la police, dans l'éducation nationale, dans toutes ces administrations qui se croient à l'abri, parce que le droit public est complexe et que l'État protège l'État, eh bien, malheureusement, pour les gens qui s'illusionnent, le lien peut être fait avec le travail. Alors que du côté des jurisprudences, on voit tomber hein, de plus en plus de condamnations. Celle de France Télécom, condamnation à des mois de prison ferme, marque un sacré virage.
Pour ne laisser aucune place au doute, Christine Renon a choisi de se tuer symboliquement dans l'établissement. Parce que se donner la mort à même son lieu de travail, c'est aussi un message en soi.
Je vais vous dire que ça ne m'a pas surprise. D'abord parce que depuis les années 2006, nous avons vu apparaître ce qu'on appelle en psychopathologie du travail les suicides dédicacés, ceux qui ont lieu sur le lieu du travail, qui est une manière de signifier à l'institution ou à l'entreprise pour laquelle on travaille qu'on meurt des conditions de travail qui sont faites dans cet endroit-là. Bien sûr, Christine Renon a laissé de surcroît un courrier très explicite. C'était une femme intelligente, très impliquée dans son travail.
Christine Renon a donc dédicacé son suicide en laissant ce courrier en tête officielle de l'Éducation nationale sur une table de l'école. Elle a pris la peine de poster un exemplaire à son syndicat, à sa hiérarchie, l'inspecteur d'académie, à des collègues, aux directeurs et directrices d'école de Pantin, histoire d'être sûre que ses explications ne soient pas étouffées.
Quand elle aurait eu besoin d'un soutien ou d'écoute, elle ne l'a pas eu.
Dominique Renon.
Et puis je pense que l'Éducation nationale ne sait pas très bien gérer ces cas, quoi. C'est comme beaucoup de choses, on cherche à étouffer, parce que les choses s'arrêtent naturellement. Ouais, c'est pour ça que je leur en veux, quoi, parce qu'il aurait fallu peut-être pas prendre le problème à la racine, mais au moins aider Christine, quoi, l'écouter, ne pas la laisser seule à se débrouiller avec les parents.
Après coup, l'Éducation nationale a reconnu sa faute. Elle a envoyé un courrier à Dominique Renon, qui inscrit noir sur blanc le caractère professionnel du suicide 2 mois après.
L'Éducation nationale a reconnu sa responsabilité hein, dans l'accident. Hein, donc c'est au moins un point positif dans notre grand malheur.
Pas le choix avec cette lettre que Christine Renon a postée juste avant de se tuer. Ça a été le choc quand le courrier est arrivé à la Bourse du Travail à Bobigny, près de Pantin, 4 jours après le drame. Surtout pour Caroline Marchand, une proche de Christine Renon, avec qui elle a milité. C'est aussi la co-secrétaire départementale du SNUIPP FSU 93. C'est le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré, donc des écoles maternelles et primaires.
Un journal intime, on l'écrit au fur et à mesure, et là, en fait, elle a déversé un petit peu tout ce qu'elle avait dû accumuler, comme une cocotte minute, voilà, qui explose et qui, à un moment donné, elle a dit « je couche sur le papier ce que je vis, ce que je ressens ». Voilà.
Christine Renon avait 59 ans quand elle s'est suicidée. C'était une militante, adhérente au syndicat depuis des années. Elle connaissait tous les rouages. Elle savait que l'employeur, quel qu'il soit, même l'État, a le réflexe de se dédouaner en invoquant un suicide multifactoriel. Mais elle savait aussi que les écrits, ça reste.
C'était pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, qu'on ne dise pas qu'elle était fragile, que c'était des ennuis personnels. Voilà, c'était vraiment, je n'en peux plus, je suis épuisée, je suis au bout du rouleau et il faut que tout le monde l'entende.
Ce qui est sûr, c'est que dans sa lettre, Christine Renon n'épargne pas l'institution, comme elle l'appelle. J'ai remarqué que l'institution, c'était un terme qui revenait souvent dans la bouche des enseignants. Pourquoi ce mot ? Pour qualifier un employeur sans visage, l'État finalement ?
Je dois dire aussi que je n'ai pas confiance au soutien et à la protection que devrait nous apporter notre institution. D'ailleurs, il n'y a aucun maillon de prévu. Les inspecteurs de circonscription ont probablement encore plus de travail que les directeurs. Et la cellule de crise ? Quelle blague ! L'idée est de ne pas faire de vagues et de sacrifier les naufragés dans la tempête.
Merci. Bah, merci de me recevoir dans votre journée bien. Marathon.
Je vous prie,
excusez
pour le retard. Pas de soucis. Indépendant de ma volonté, comme il y a une
suite.
Le ministre a décidé d'être dans la réunion pour différentes causes.
J'avais demandé une interview de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Bon, j'ai eu le directeur des ressources humaines. C'est pas si mal déjà, c'est quand même le premier DRH de France, puisque l'Éducation nationale est le premier employeur du pays, loin devant Air France, Carrefour ou bien les banques. Il gère plus d'un million d'agents, dont 870 000 profs. Et parmi eux, quasiment la moitié enseigne dans les écoles maternelles et primaires. Vincent Sautemont revient justement d'un rendez-vous avec Jean-Michel Blanquer, rue de Grenelle, à Paris. Lui aussi évoque l'institution. Alors je lui ai demandé sa définition à lui.
Oh, c'est un beau collectif, non ? Derrière l'institution, il y a un collectif. Moi, j'aime bien cette idée de collectif. On appartient en plus, je suis là depuis un an, j'ai l'impression d'appartenir à une famille, quoi. Un collectif, je trouve, c'est rassembleur, vous voyez ? Ça n'exclut pas en tout état de cause. Donc moi, j'aime ce mot, dans ce côté collectif. Et j'appartiens à l'institution et j'en suis fier.
Le hasard fait que son histoire à la tête des RH du ministère est étroitement liée à celle de Christine Renon.
J'ai pris mes fonctions, je me souviens très bien, c'est le jour où malheureusement on enterrait Christine Renon. Ça marque inévitablement.
Ça fait déjà 9 jours que la lettre de Christine Renon circule sur les réseaux sociaux. La machine médiatique est enclenchée.
Christine avait décrit ses tracas dans une lettre.
En haut de la lettre, sur
papier. L'enquête met en cause l'éducation nationale.
Une lettre reçue au lendemain de sa mort.
21 septembre.
Là, l'État ne peut pas rester sourd ni muet. Un chiffre, d'habitude tu, est révélé.
Son écrit, le lieu, etc., a obligé l'institution à se pencher, à révéler certaines données sur la question du suicide au travail et de la souffrance au travail.
Marie-Hélène Plard, co-secrétaire du SNUIPPFSU 93.
C'est une donnée qui n'est pas du tout travaillée, prise en compte dans la fonction publique en général et dans l'éducation nationale en particulier. Même sur les chiffres 2018-2019, les 58 annoncés ne sont que les suicides qui ont été reconnus imputables au service. Donc ça veut dire qu'il y a eu une démarche des ayants droit pour faire cette reconnaissance. Donc le chiffre est sans doute beaucoup plus élevé parce que c'est pas forcément c'est que la partie immergée de l'iceberg.
Le chiffre est lâché. Plus d'un agent de l'éducation nationale par semaine se tue à cause de son travail. Autant que les policiers finalement, qui passent souvent à l'acte avec leur arme de service. Un jour, j'ai interviewé un syndicaliste policier et quand je lui ai demandé combien d'agents s'étaient tués depuis le début de l'année, il a regardé son calendrier pour me répondre. Ça m'avait marqué. C'est comme ça depuis des années. Alors ça fait un an que Christine Renon est morte, et on est semaine 39. Ça veut dire que 39 profs se sont suicidés depuis le début de l'année ? J'ai demandé les chiffres actualisés au DRH, Vincent Sautemont.
Je n'ai pas les chiffres 2019-2020. Ils sont en cours de consolidation. Et ce que je peux dire simplement, c'est que manifestement, on a plutôt des chiffres en baisse, mais j'attends d'avoir une consolidation, c'est-à-dire regarder dans le détail ce qui s'est passé. On ne se réjouit pas pour autant. Hein. Je veux dire, chaque cas de suicide, c'est un cas dramatique. Hein. C'est derrière tout ça, c'est chaque cas de suicide est inacceptable par définition. Voilà. Et donc, ça appelle effectivement... comme on l'a fait, donc une mobilisation de l'institution. Donc je ne vous donnerai pas aujourd'hui ces nouveaux chiffres. On sera amené à être transparent à nouveau et à commenter ces chiffres.
Mais sur les 10 dernières années, est-ce que vous avez une idée de l'évolution ? Parce qu'il me semble que c'était la première fois que vous donniez justement ce chiffre pour la rentrée 2018-2019. Donc pour jouer la carte de la transparence, ils étaient de combien à peu près chaque année ?
On n'avait pas de recul, souvenez-vous. On n'a pas pu donner de profondeur parce qu'on n'avait pas de chiffres fiables. Donc on a préféré ne pas trop se prononcer effectivement sur une tendance, sur une évolution.
La lettre de Christine Renon a quand même ouvert une brèche.
Elle s'est retrouvée de manière peut-être sans l'avoir réfléchi, porte-parole de la souffrance au travail de tous les personnels de l'éducation nationale.
Caroline Marchand, du SNUIPP FSU 93.
Pourquoi, du coup, ça a eu un retentissement aussi grand ? C'est parce que dès qu'on lisait cette lettre, on avait vraiment l'impression que chacun d'entre nous, nous aurions pu écrire un des paragraphes parce qu'on se retrouve seul, soit enseignant, direction d'école, maître formateur, enseignant spécialisé, à des difficultés de plus en plus nombreuses, à des enfants en souffrance. Et dans notre département en particulier, dans le 93, les services publics sont tellement mal en point qu'il n'y a que l'école qui porte tout ça à bout de bras.
Alors j'imagine qu'à ce stade, vous voulez savoir qu'est-ce que Christine Renon a bien pu raconter dans cette lettre ? Qu'est-ce qui l'a poussée à cet acte ? On va y venir. Mais avant ça, je vais vous la présenter. Parce qu'elle vaut le détour. Ses proches vous le diront mieux que moi d'ailleurs, dans le prochain épisode de cette série.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.